Voilà, c'est vrai qu'on va parler des émotions, les mettre en lien avec deux mécanismes, hein, celui de l'apprentissage et on va voir celui de la résilience, hein, comment est-ce qu'on utilise une émotion pour dépasser des événements traumatiques, des difficultés. Comment on situe l'émotion par rapport à l'un et l'autre, par rapport à l'apprentissage et par rapport à la résilience? Parce que c'est vrai, on va le voir, que l'émotion a un statut ambigu, particulièrement dans nos sociétés, puisqu'on vit dans ce qu'on appelle une émocratie. C'est-à-dire que ce n'est plus la démocratie, c'est le pouvoir de l'émotion. C'est l'émotion qui va, à un moment donné, susciter des réponses à la fois individuelles et collectives. Vous en convaincre, pensez simplement aux images qui vous sont proposées. Vous voyez un petit enfant sur une plage mort. Ça suscite l'envie chez tout le monde d'adopter trois Syriens. Vous avez une image du Bataclan qui passe derrière. Tout le monde dit, mais qu'on les rejette à la mer. Et vous avez ces mécanismes qui sont ceux que suppose l'hémocratie. C'est pour ça que l'émotion, c'est quelque chose qu'il va falloir contrôler pour cultiver ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ce que l'on dit sous forme d'émotion n'est pas nécessairement une réponse cognitive de qualité. Vous pouvez, par l'émotion, pervertir complètement votre jugement. Sans émotion, vous ne pouvez pas apprendre du tout. L'émotion est indispensable à la mise en mouvement du processus d'apprentissage. D'ailleurs, vous vous souvenez tous de ce que vous étiez en train de faire le 11 septembre 2001, simplement parce que vous avez imprimé dans votre cerveau ce qui était relayé à un événement traumatique et donc qui suscitait une émotion intense. Si je vous demande ce que vous faisiez le 11 septembre 2006, là vous êtes incapable de le dire, simplement parce qu'on n'a pas enregistré. Donc l'émotion, c'est quelque chose qui va être effectivement un vecteur d'apprentissage, mais aussi, on va le voir, un creuset pédagogique. Hein. Creuset pédagogique qui va fonctionner d'autant plus qu'on est dans une démocratie et dans un contexte, ça on va le définir ensemble, d'hyperparentalité qui explique que nos enfants, par exemple, ne cultivent pas leur intelligence émotionnelle pour des raisons très simples, c'est qu'on ne les autorise pas à explorer les émotions. On se méfie très fort de l'émotion. Petit exercice d'ailleurs, hein, je vous demande simplement d'imaginer que vous êtes face à une de vos amies, une de vos connaissances, quelqu'un à qui vous allez simplement exprimer votre émotion. Vous allez juste dire à cette personne, et vous imaginez en train de dire à cette personne que vous êtes triste. Imaginez la situation, vous êtes installé, vous dites à votre ami, je suis triste, et vous expliquez les raisons de votre tristesse. Imaginez sa réaction dans les 30 secondes, dans la minute qui suit. Elle se sera arrangée pour vous expliquer que vous n'avez pas de raison d'être triste, que vous avez en tout cas plein d'autres raisons d'être content. C'est ce qu'on fait généralement quand on veut nuancer, nier, rendre illégitime l'émotion de l'autre. Or, on va le voir, c'est de cette manière-là qu'on rend les mécanismes somatiques opérants, quand une émotion est contredite. Il y a une première règle qui est nécessaire lorsqu'on veut utiliser l'émotion comme un creuset d'apprentissage ou comme quelque chose qui permet le développement. C'est une règle qui suppose qu'une émotion qui se dit ne se contredit pas. Si vous me dites que vous avez une émotion, je n'ai pas à chercher à la nuancer. Votre amie est très bienveillante hein, quand elle veut chercher à nuancer l'émotion parce que bon, elle veut se protéger un peu, hein, contagion émotionnelle, et elle espère aussi, comme le font les hyper-parents, éviter l'émotion négative qu'elle suppose comme étant nécessairement nocive pour votre développement. Or, ce n'est pas vrai. Toutes les émotions sont indispensables au développement de l'être humain. Il y a d'ailleurs un dessin animé qu'il faut absolument aller voir si vous voulez comprendre ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Ça s'appelle Vice Versa. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, vous avez très clairement un dessin animé qui explique comment toutes les émotions sont indispensables au développement. Si vous êtes dans la joie permanente, c'est une catastrophe. Vous devez nécessairement éprouver des chagrins, éprouver de la tristesse. C'est pour ça qu'un parent doit supporter, j'écris un livre qui s'appelle Un chagrin d'amour peut aider à grandir, uniquement pour faire en sorte que les parents tolèrent les chagrins de leurs enfants. Parce qu'actuellement, dans l'hyperparentalité, puisqu'on a mis au monde des enfants heureux et destinés à être heureux jusqu'à la fin de notre vie, on aura tendance à dire sois content, sois dans la joie, et ne va pas explorer les autres émotions. On va éviter tout ce qui ressemble à une émotion négative. Ce contexte d'hyperparentalité, hein. Qu'est-ce qui est parent ici d'ailleurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de parents? Alors, on va vérifier. Si vous êtes des hyperparents, il y a trois symptômes à l'hyperparentalité, hein, qu'on voit généralement. Premier symptôme, on appelle ça les parents hélicoptères. qui contrôlent leur enfant tout le temps. T'es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Tu reviens quand? Parce qu'on a terriblement peur qu'il arrive à quelque chose à nos enfants quand ils sont plus sous notre regard. Hein. Un enfant actuellement, de 10 à 12 ans, n'est pas autorisé à faire plus de 300 mètres au-delà du périmètre de ses parents, simplement parce qu'on a peur qu'ils nous échappent et qu'ils échappent à notre contrôle. Regardez des parents en sortie d'école, hein, ils viennent chercher vraiment au bord de l'école. Je vois toujours cette photo de maman dans un journal, la dernière heure, en première page, hein, avec un titre qui barrait complètement la page, Ils ont abandonné mes enfants en pleine jungle. Bon, j'achète le journal pour voir un peu ce que ça signifie, quand même, des enfants en pleine jungle, c'est au moins intriguant. Vous ouvrez, page 7, on vous explique que ça se passe à Uccle. Alors, pour ceux qui connaissent Uccle, c'est tout sauf une jungle. Hein. Et vous étiez simplement chez deux enfants de 12 ans et de 10 ans que le bus avait déposé à 300 mètres de l'arrêt de bus. Grosse panique, hein. Le journal cautionne d'ailleurs, hein, ce mécanisme-là. Je voyage beaucoup en train, j'étais récemment entre Charleroi et Otigny, avec Terminus à Otigny. Je vois un enfant dans le train avec la maman qui constamment téléphoner à cet enfant 17 coups de GSM qu'il a reçus et qu'il a donnés. La maman suivait le parcours, effectivement, pour vérifier, à part tomber du train, il risquait absolument rien. Mais ça n'empêche pas, et ce sont des tendances qu'on a tous, à des degrés divers chez nous, qui font que ben, on va empêcher l'enfant d'explorer par lui-même et on va vouloir l'avoir sous nos yeux. Parce qu'on a notre propre émotion, qui est cette peur que notre enfant, il lui arrive quelque chose, quoi que ce soit, parce que, et c'est ça l'hyperparentalité qui est rendue possible par ce mécanisme-là, qui fait qu'on a désiré programmer nos enfants. Donc on est responsable du fait qu'ils sont sur la Terre, et à partir de là, on se sent responsable de tout ce qui pourrait leur arriver. Les enfants ne sont plus des accidents, sont le fruit d'un désir et d'un programme. Comme vous avez programmé, vous êtes responsable. Deuxième contexte, on appelle ça les parents drones. Les parents drones, ce sont des parents hélicoptères améliorés. Ils tournent autour de leurs enfants en demandant toujours le meilleur pour lui. Il faut qu'il ait le meilleur, il faut qu'il ait constamment ce qu'il y a de plus favorable pour lui. Ce sont ces parents, ce symptôme-là, qui existe. L'hyperparentalité, ce n'est pas un défaut, hein, c'est une caractéristique qu'on a tous à des degrés divers. Le parent drone, c'est celui qui, constamment, réclamant le meilleur pour son enfant, va lui éviter toutes les émotions négatives. Entre collègues, on appelle ces enfants des enfants Kirikou. Vous connaissez Kirikou, hein? Un dessin animé que les adultes aiment beaucoup, mais que les enfants n'aiment pas. Disons-le très clairement, les adultes voudraient que les enfants aiment, et donc on leur balance un dessin animé, et dans les contextes d'hyperparentalité, par exemple le Brabant wallon, hein? Moi je suis un immigré dans le Brabant wallon, et je suis confronté à un contexte d'hyperparentalité absolue où les enfants Kirikou, il y en a énormément. C'est-à-dire que vous demandez à l'enfant c'est quoi ton dessin animé préféré, il regarde son parent et puis il vous répond Kirikou. Simplement parce que de cette manière-là, il donne l'impression à la maman qu'il a intégré les valeurs qui sont véhiculées. Ça, c'est pas contestable, hein? Valeurs, tolérance, respect, etc. Mais pour un enfant, c'est des mots qui chantent puisqu'ils ne parlent. Ça ne veut strictement rien dire. Et donc, Kirikou n'est pas très drôle, ne suscite pas tellement d'émotions directes, hein? Lorsqu'on veut sortir du contexte d'hyperparentalité, on a par exemple des enfants qui aiment Bob l'éponge. Parce que Bob l'éponge, les parents n'aiment pas beaucoup. Tout a été fait pour que les parents détestent d'ailleurs, hein, une voix agaçante, un rire énervant. Et vous pouvez regarder dans toutes les versions de Bob l'éponge, hein, dans toutes les langues, le rire de Bob l'éponge met à distance. C'est une stratégie qui a été mise en place par les concepteurs de Bob l'éponge pour que l'adulte s'éloigne de l'écran de télévision, laisse l'enfant tout seul. De cette manière-là, il avale les écrans publicitaires qu'il y a autour, tout seul, sans la distance critique de l'adulte. Mais les enfants aiment Bob l'éponge, parce que Bob l'éponge représente exactement le monde tel qu'il est vu par un enfant de 10 ans. Et donc, vous avez une vision du monde qui correspond avec un champ sémantique qui s'intercroise. Intercroise, c'est très très riche, Bob l'éponge. Moi, je passe mon temps dans mes consultations privées à prescrire des Bob l'éponge pour que les parents vivent des moments d'apprentissage partagé dans le plaisir. On va voir que ça, c'est essentiel, qu'on puisse apprendre ensemble. Vous savez, quand on m'amène un enfant le samedi matin ou le samedi après-midi, lors de mes consultations, généralement pour des problèmes liés à l'école, phobie scolaire, etc., etc. L'enfant s'attend à ce qu'on lui rajoute et qu'on lui reparle de l'école. Vous dites non, vous dites à la maman, écoutez, pour la semaine prochaine, je vais vous demander de regarder un Bob l'éponge avec votre enfant. Bon, l'enfant, il vous regarde comme un alien. Hein, il se dit, enfin, quelqu'un qui a compris que c'était important pour mon développement. que je puisse vivre des moments émotionnels qui sont cautionnés par le parent. Parce que quand le parent dit « qu'est-ce que c'est con d'être l'éponge ?», inévitablement, l'enfant a l'impression de faire quelque chose qui n'est pas validé. Et il le fait alors, mais avec une espèce de pression. Je prescris aussi énormément de jeux vidéo. Des jeux vidéo comme Call of Duty, comme des jeux de zombies, des jeux... Alors les parents, d'abord, comme ils viennent me voir généralement, parce qu'ils ils me connaissent d'une manière ou d'une autre, puis ils payent en plus, hein. Donc ils écoutent ce que je leur dis, et ils le font. Et j'ai systématiquement la même réaction de la maman, qui dit, ben, Bob l'éponge, finalement, ça, c'est marrant, parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai qu'ils ont compris comment on pouvait faire rire un enfant et un adulte à des niveaux différents, mais au même moment. Et donc, vous avez des mécanismes qui fonctionnent bien. Quand le parent comprend qu'il ne doit pas préserver à tout prix l'enfant de toutes les émotions, qu'il faut nécessairement, comme il l'indique très bien dans Vice-Versa, quand on voit le film et qu'on sait le voir et qu'on a les clés pour le décoder, sans tristesse, votre enfant sera incapable de prendre des décisions. La tristesse est indispensable au mécanisme de prise de décision. Sans colère, vous êtes incapable aussi de prendre des décisions. Vous êtes incapable de vous opposer à ce qui risque de vous anéantir. Sans dégoût, vous mourrez. Et sans peur, vous êtes effectivement en danger permanent. Ces émotions sont indispensables autant que la joie. Or, dans Vice-Versa, vous voyez la joie qui est obligée de faire appel aux autres en disant « attention, ils m'ont laissé tout seul pour pouvoir déborder une situation ». Et donc, permettre à tout le monde de vivre des émotions. Et ce n'est pas si simple. Hein. Imaginez que votre enfant a peur des monstres qui sont dans le placard. Et il vient vous voir, il a 4 ou 5 ans, et il vient vous voir en disant « j'ai peur, il y a des monstres dans mon placard et il ne veut pas dormir ». Qu'est-ce que vous faites ? Vous ouvrez le placard, c'est une maman traditionnelle qui ouvre le placard. Les papas, eux, tuent les monstres. Les mamans ouvrent les placards en disant à l'enfant, regarde, il n'y a pas de monstre. Alors, le problème, c'est qu'il n'était pas dans le placard, donc vous n'avez pas pris un grand risque. Hein. Vous saviez qu'il n'était pas dans le placard. Il est dans le cortex de votre enfant qui, plus il est dans un environnement sécurisé, plus va devoir rêver à ce qui lui permet de savoir qui il est quand il a peur. C'est à ça que ça sert, un cauchemar. Hein. Vous pouvez, à ce moment-là, explorer ce que vous êtes. Et les enfants, dans des milieux très sécurs, font beaucoup de cauchemars. Simplement parce qu'ils ont besoin de se connaître face à la peur. Mais quand vous lui dites, regarde, il n'y a pas de monstre, l'enfant enregistre, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Résultat, il se met à avoir peur de sa peur, et la peur de la peur, c'est l'angoisse. Quand dès que vous avez une peur, vous vous dites, oulala, j'ai pas le droit, qu'est-ce qui se passe? Et les enfants sont angoissés. Je me souviens de cette maman, c'était au forum de Liège. Il y avait plein de monde, hein, parce que ce forum, c'est une très, très grande salle. Et à la fin, il y avait aussi des questions-réponses. C'est des conférences pour les parents. Donc, ce sont beaucoup d'hyper-parents qui viennent, hein, pour venir passer une soirée à écouter quelqu'un qui parle de pédagogie. Il faut quand même être bien atteint d'hyper-parentalité. Et je me souviens de cette maman qui lève son doigt et qui me dit, voilà, j'ai un souci. C'est un petit garçon de 10 ans qui a peur des dragons et qui a décidé que mon mari était le seul tueur de dragons disponible. Marie était à côté, on n'a pas l'air tellement fringant comme tueur de dragon, mais bon, c'était la décision du gamin. Et surtout, le papa en avait visiblement marre d'être un tueur de dragon parce que se lever tous les soirs pour aller tuer des dragons dans une armoire, c'est pas évident. Et donc, ils avaient décidé de mettre leur enfant, le faire dormir avec eux. Alors, elle me pose la question qui est la pire qu'on puisse poser en pédagogie, c'est est-ce que c'est normal ? Vous imaginez, il y a plein de monde, ou bien je me casse et je m'écrase complètement en disant « oui madame, c'est normal, ne vous inquiétez pas ». Et là tout le monde sent bien qu'un enfant de 10 ans au milieu de papa et maman, c'est pas une bonne chose. Mais si je dis à madame, non c'est pas normal, là c'est elle que je casse devant tout le monde, donc je peux pas me le permettre. C'est pour ça que je vais faire ce qu'on fait toujours en pédagogie. On répond jamais aux questions, on pose une autre question. C'est-à-dire, je pose à cette maman la question qui va lui permettre de s'interroger sur la manière dont elle pose et elle permet les émotions chez son enfant. C'est-à-dire, en quoi est-ce que votre enfant, la peur de votre enfant, vous empêche à ce point de dormir ? Bien sûr qu'il a peur. Il faut accepter cette peur et lui dire « tu as peur, je comprends que tu aies peur, il n'y a pas de monstre, t'inquiète pas, vous mettez une veilleuse, une petite lumière, et puis vous acceptez. » Allez explorer vos peurs enfantines, vous en avez tous eu. Et vous avez vécu avec. Vous avez simplement appris par ces peurs à savoir qui vous êtes face à la peur. Pensez, sauf si c'est trop frais, hein, parce qu'alors après vous avez pleuré, on aura un mal de chien à vous récupérer, mais pensez à votre premier chagrin d'amour pendant 30 secondes. Vraiment, 30 secondes, pensez au premier chagrin d'amour que vous avez eu. Alors, vous souriez. Pourtant, ce jour-là, vous n'avez pas souri. Hein. Vous avez hurlé, vous avez pleuré, vous êtes arrivé plein. Vous aviez une vraie émotion. C'est ça le destin d'une émotion. C'est devenu ce qu'on appelle un état d'âme. L'état d'âme, c'est ce que font les êtres humains avec les émotions. Les émotions, les grands singes en ont aussi. Hein. Il y a 5 émotions majeures. La tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la joie. Après, vous les mélangez, vous faites des états d'âme avec. Les grands singes ne font pas d'état d'âme. Vous ne trouverez jamais un grand singe qui a un chagrin d'amour, et encore moins un qui le raconte à un autre. Simplement parce que le grand singe, lui, il n'a pas d'intelligence émotionnelle, il a juste les émotions. Les grands singes ont peur, ont de la joie, ont des comportements qui traduisent qu'ils sont tristes. Ils ont toutes ces émotions. Mais aucun ne fait un état d'âme qui va le faire décliner ses émotions, comme on le dit actuellement par rapport à la peur, qui est l'émotion massive de nos sociétés. Nous sommes des sociétés qui ne vivent plus dans la culpabilité, mais dans l'anxiété, dans l'angoisse. Si Troisième Guerre mondiale il y a, et il est probable que nous serions rentrés dedans, c'est une guerre d'un autre ordre, c'est-à-dire qui va détruire, qui risque de nous détruire de l'intérieur, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait peur, et notamment, c'est pour ça que ces guerres que Zygmunt Bauman appelle des guerres fluides, c'est-à-dire pas une guerre solide, symétrique entre deux pays qui se battent sur des territoires donnés, des guerres fluides, c'est ce qu'il avait prévu, hein, si vous lisez Zygmunt Bauman, il y a 15 ans, il expliquait déjà que les sociétés, les États se fluidifient, le Kurdistan, c'est des pays qui n'existent pas, l'EI, c'est un État qui n'existe pas, et qu'ils n'ont, de manière dissymétrique avec des pays qui existent, eux n'auront qu'une arme, c'est la terreur, c'est-à-dire faire peur. Et puis chaque pays va devoir s'arranger. Ce n'est pas un hasard s'il touche les lieux de divertissement. C'est pour qu'il n'y ait que plus que de la peur, y compris lorsqu'on cherche à s'en divertir. Et donc vous avez une société dans laquelle on va travailler sur l'angoisse, la peur de la peur. Ça, c'est ce qu'on fait de pire. C'est pour ça que la communication, par exemple, des médias a été revue et de manière drastique parce qu'elle était calamiteuse hein, quand on fait des prises de direct pour vous dire ce qui ne se produit pas, c'est-à-dire on vous fait des longs directs pour vous dire ce qui aurait pu se passer et puis qu'on vous dit après ce qui se serait sans doute passé si on n'avait pas, là vous allez cultiver un mécanisme qui est l'angoisse, qui est une peur diffuse. L'angoisse, elle, est invivable pour un être humain, ce qui fait que, par exemple, la transformation d'angoisse en anxiété, ce qu'ont très bien fait, par exemple, ceux qui ont peur des araignées. Il y en a qui ont peur des araignées ici.
Oui.
Qui est-ce qui a peur des araignées? Voilà. Ah, visiblement, vous êtes... Voilà, rien qu'à y penser. Alors, vous avez utilisé là un mécanisme... Vous êtes une angoissée performante. C'est-à-dire que vous utilisez quelque chose qui existe chez l'être humain, sur le plan, alors c'est un gros mot hein, qui s'appelle phylogénétique, ça veut dire que si l'être humain, dans son développement, n'avait pas instinctivement eu peur de l'araignée, eh bien, on ne serait pas là pour en parler. Donc, c'est quelque chose qui existe au fond de nous, qui est un instinct, qui va effectivement être utilisé, alors à ce moment-là, par votre angoisse, qui va déposer, vous savez bien que les araignées ne vont pas vous manger, vous ne risquez rien. Eh bien, vous déplacez votre angoisse sur un objet dont on peut parler. C'est un objet, l'angoisse générale, c'est la peur de l'incertitude, la finitude et la solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et les gens qu'on aime vont mourir aussi. Je ne reste pas là-dessus parce que ça plombe l'ambiance, hein, donc on dépasse l'angoisse. Et on va parler de votre peur des araignées, qui est simplement cette angoisse-là déposée sur un objet qui est plus ou moins invalidant. Alors, si vous me dites, à un moment donné, c'est pas possible. Par exemple, imaginons quelqu'un qui doit nettoyer dans les maisons et qui a votre phobie des araignées. Si elle me dit, c'est pas possible, on va faire une thérapie cognitivo-comportementale et on va juste déplacer cette anxiété sur la peur des ours blancs. On parle beaucoup par ici, donc vous risquez moins, effectivement. Mais on ne va pas supprimer l'anxiété, parce qu'elle est utile, elle est très utile. C'est pour ça que quand quelqu'un a une phobie comme celle des araignées, et quand on a une phobie, on a aussi des avantages à une phobie. Vous allez, par exemple, beaucoup plus vite que moi, repérer des araignées autour de vous. Vous avez une espèce d'hypervigilance, comme ça, qui fait que vous voyez les araignées, là où... C'est pour ça, et là on revient sur le creuset d'apprentissage que ça crée, parce que, eh bien, on est là dans l'anxiété. L'anxiété peut se traduire en peur. Les gens qui, pour le moment, disent « j'ai peur d'un attentat, j'ai peur de mourir », et plus on nomme l'objet de sa peur, moins on en fait un objet d'anxiété, moins on devient le sujet de son angoisse. Simplement parce que le mot contient l'angoisse. Les enfants, quand on leur a permis de parler de ce qui leur faisait vraiment peur, et c'est comme ça qu'on a mis en place dans toutes les écoles des groupes d'expression. Exprimez vos émotions, pas des groupes de discussion. Quand la ministre a lancé ces groupes de parole, on a tout de suite dit stop, stop, stop. C'est le but n'est pas d'ouvrir la parole. Là, les enseignants vont se retrouver devant des positions radicales, hein, très rapides. Hein. Pour l'islam, contre l'islam, renvoyez-les chez eux, on a bien fait de les tuer, vous avez des mécanismes, on l'a vu dans beaucoup de collèges, hein, beaucoup d'écoles, où vous avez des positions, parce que des opinions se juxtaposent très très mal dans des contextes de peur. Par contre, quand vous demandez qu'est-ce que vous ressentez suite à ce qui s'est passé, là, vous avez des enfants, et avec la règle dont j'ai parlé tout à l'heure, une émotion se dit, ne se contredit pas. Vous pouvez avoir un enfant qui dit, moi je suis triste parce que se moquer du prophète, c'est comme se moquer de mon père. Très bien, on ne contredit pas ton émotion. Et un autre qui dit, moi je suis en colère parce que tu es des dessinateurs, je trouve que ça ne se fait pas. Très bien, on ne contredit pas l'émotion. L'opinion, peu importe, l'opinion qui vient derrière l'émotion, chacun la construit en fonction de l'émotion qu'il a reçue. Vous avez énormément de personnes actuellement, et on le voit notamment en France, hein, qui traduisent leur émotion par une opinion, voire une conviction politique. Si votre enfant vient, votre adolescent vient et vous sort un truc raciste épouvantable, du style tous ces Arabes, faut les foutre dehors, et que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça dans sa bouche, surtout ne lancez pas un débat contradictoire, vous risquez d'effriter l'estime qu'il a de lui-même. Par contre, relié à son émotion, j'entends par là que tu as très peur. Très bien, là il va comprendre effectivement que l'émotion produit à ce moment-là quelque chose qui va susciter une réflexion de faible qualité. C'est là que l'émotion, il faut s'en méfier. C'est un ami, parce qu'on a tous besoin de les vivre. C'est un ennemi sur le plan cognitif, quand c'est ça qui justifie notre point de vue. Et on doit permettre aux enfants de vivre des émotions, de vivre, par exemple, leur peur, leur tristesse. Si vous cherchez en permanence à évacuer la tristesse, par exemple dans le chagrin d'amour, quand vous avez transformé votre tristesse en chagrin, pour en faire une histoire que vous racontez à quelqu'un d'autre, vous êtes profondément humanisé. Et c'est ce qui explique que vous souriez des années après. Parce que vous êtes capable d'utiliser votre tristesse pour savoir qui vous êtes face à ce qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire l'amour ou la mort. Et donc, vous êtes en train de cultiver la connaissance que vous avez de vous-même à travers l'image que vous vous faites de qui je suis face à cette émotion-là. Ça, c'est indispensable au fonctionnement. On se souvient tous de nos chagrins d'amour. On se souvient tous de nos deuils, de nos chagrins. On ne peut pas préserver l'individu de tout cela. C'est ce qu'on veut malheureusement faire avec nos enfants. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'utilise plus le mot mort. Les grands-mères ne meurent pas, elles s'éteignent. Alors ça, pour un enfant, c'est absolument incompréhensible. Il n'y a que les bougies qui s'éteignent. Simplement, quand on n'arrive pas à dire les choses, parce que nous-mêmes, on est contaminés par l'angoisse, on utilise des métaphores. Elles s'éteignent, elles partent faire un grand voyage, elles montent au ciel. Donc vous avez des enfants qui attendent qu'elles retombent. Hein. Simplement parce qu'on se dit, c'est pas possible de lui dire. Effectivement, parce qu'il va être triste. Vous savez, quel est l'animal de compagnie le plus répandu dans les familles actuellement? C'est lequel, là, selon vous? Le chien, le chat, non, non. Il y en a à peu près 4 fois moins qu'il y a 10 ans. Parce que les chiens et les chats meurent et qu'on s'y attache. Simplement parce qu'ils ont des poils et qu'on les caresse et qu'on... Ce sont les poissons rouges. Effectivement, vous en avez 30 fois plus qu'avant. Parce que ça permet de faire en sorte que l'enfant ne perçoive pas la mort. Parce que pour s'attacher à son poisson rouge, il faut quand même être un peu allumé. Hein. Et donc la plupart ne s'attachent pas à leur poisson rouge. Vous ne pouvez pas le caresser. Le poisson rouge n'en survivra pas. Et donc il n'y a pas de lien tactile. Il n'y a pas de lien émotionnel entre l'enfant et le poisson rouge. Et d'ailleurs, la plupart des parents le savent. Quand le poisson disparaît, ils en mettent un autre et ils disent, regarde, il n'est pas mort. Et on va dénier la mort. Ça, je dis souvent aux parents. Achetez des animaux mortels pour vos enfants, pas la tortue, votre enfant sera mort avant. Achetez pas non plus un animal mort, parce que ça c'est cruel, mais achetez un animal dont il va connaître la mort. Évidemment qu'il sera triste. Et en étant triste, il va cultiver un chagrin qui va devenir effectivement une histoire à raconter. Et nous sommes l'histoire que nous racontons à propos de nous-mêmes. Nous sommes dans une société qui n'est plus une société du moi, mais qui est une société du soi. C'est-à-dire, ce qui importe, c'est le récit que je produis à propos de moi-même. C'est pour ça que la maladie d'Alzheimer est vécue de manière aussi dramatique dans nos sociétés. Ça a toujours existé, hein, les personnes âgées qui perdaient la tête, c'est pas nouveau, simplement actuel. Et à l'époque, ça suscitait évidemment une certaine compassion, mais en même temps, elle était toute relative, on disait « il est toujours là ». Et il avait sa place à l'intérieur d'une communauté familiale. Actuellement, c'est pire d'avoir la maladie d'Alzheimer que de mourir. Parce que votre soi, c'est-à-dire l'aptitude que vous avez à produire un récit à propos de vous-même, s'est effiloché, et donc autant être mort. C'est ça une société qui va privilégier le soi. Ça veut dire qu'on va devoir non seulement vivre des émotions, les transformer en état d'âme, et derrière ces états d'âme, on va devoir construire effectivement un récit à propos de soi-même qui fait que préserver une personne de ses émotions, eh bien, c'est non seulement inutile, mais nuisible. Parce qu'ils vont chercher ces émotions. C'est pour ça que les enfants dont on veut préserver l'exploration émotionnelle vont se jeter sur des jeux de zombies, ou dans lesquels ils vont métaboliser la mort dans un jeu qui leur fait peur, et que ceux qui sont trop préservés finissent par devoir consulter, parce que, à force de ne pas explorer ces différentes émotions, ils ne savent plus qui ils sont. Et ces enfants, une fois qu'on arrive à lever le contexte d'hyperparentalité, donc premier symptôme, parent hélicoptère, deuxième symptôme, parent drone, troisième symptôme, très important aussi, c'est ce qu'on appelle le parent curling. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le curling. Le curling, c'est un sport. Si vous avez des insomnies, regardez, on voit les championnats du monde de curling sur Eurosport à 3 ou 4 heures du matin, parce que ce n'est pas passionnant à regarder. Vous avez quelqu'un qui lance un palet, et vous avez des personnes qui balayent, hein, pour que ça arrive le plus près possible de la cible. Alors, c'est un sport qui est une très très belle métaphore de ce qu'est l'éducation, de ce qu'est aussi votre travail quand vous amenez quelqu'un à l'autonomie. Ça veut dire l'éducation, c'est un geste dans lequel le lancer doit être harmonié et puis le lâcher est fondamental. Si vous voulez lancer quelqu'un, il faut le lâcher un moment ou l'autre. Et on a beaucoup travaillé, nous, sur le curling, avec notamment des chercheurs qui ont essayé de vérifier si ces gens qui balayaient étaient réellement utiles. Ils balayent de manière névrotique là devant. Et on se rend compte qu'ils ne sont absolument pas utiles. Ce qui est important, c'est le lancer. C'est un peu comme à la pétanque. Hein. C'est comme si il y avait quelqu'un qui se mettait autour des balles de pétanque pour éviter les coups de vent, en remuant frénétiquement. Ça n'a pas de sens. Et c'est pourtant ce que font beaucoup de parents, par exemple, dans les devoirs scolaires ou près des terrains de football. C'est là qu'on voit ces gestes où les parents deviennent fous, simplement parce que les deux ascenseurs sociaux, le football et surtout l'école, les rendent fous. Là, on va arriver à ce moment-là au vrai contexte d'apprentissage qu'on peut aborder par rapport aux émotions, parce que les parents curling, sur ce plan-là, ce que nous sommes à peu près tous, hein, font énormément de dégâts. Est-ce qu'il y en a qui font les devoirs avec leurs enfants ici? Qu'est-ce qui fait les devoirs avec ses enfants? Qu'est-ce qui s'énerve en faisant les devoirs avec ses enfants? Non, vous ne vous énervez pas du tout. Donc, vous avez un symptôme de curling. Là, il y a quelqu'un qui s'énerve. Alors, bon, voilà, de temps en temps, si vous avez un groupe d'enseignants, généralement, quand vous leur posez la question, donc parce qu'ils sont enseignants, mais ils cumulent les fonctions, hein, ils sont aussi parents, et vous leur dites, les devoirs, ça se passe comment? Ils vous disent mal. Parce que les enseignants sont de très mauvais enseignants pour leurs propres enfants. Et ils s'énervent sur leurs enfants, et ils vont se retrouver à mettre en place cette vraie hérésie pédagogique, hein, parce que les devoirs sont un espace terriblement contrariant sur le plan pédagogique, ça produit des effets désastreux. Les parents s'énervent, crient des questions en posant des réponses, en donnant des réponses, et crient des questions les unes à la suite des autres. Les enfants n'ont plus d'activité cérébrale. Hein. Dès que vous vous énervez, vous bloquez l'enfant qui se met à ne plus réfléchir du tout. Alors, la bonne nouvelle d'une recherche qu'on a réalisée il y a quelques années sur Charleroi, c'est que les enfants ne souffrent pas tant que ça. Ils disent juste « maman devient folle », je le sais. Et donc, ils acceptent un moment un peu pénible, et même très pénible, un moment dans lequel ils suspendent leur activité cérébrale et ils essayent de s'en extraire. Les mamans en souffrent énormément, hein. Par contre, comment est-ce que j'ai pu être comme ça avec mon enfant? Et l'enfant se met à souffrir très fort quand les papas s'y mettent, parce que c'est 80% des mamans qui font les devoirs, et les papas interviennent dans un second temps. Ils voient la maman s'énerver, ils disent « viens, je vais le faire », et puis 30 secondes après, ils s'énervent aussi, et là, l'enfant intègre, j'énerve tout le monde. Et dans tous les cas de figure, en tout cas, on constate qu'on a créé du stress chez l'enfant et que le stress est l'ennemi absolu des apprentissages. Notamment, on l'a étudié nous sur les mathématiques, mais c'est vrai pour tous les apprentissages, si vous êtes stressé, si j'induis du stress actuellement et que je vous fais une opération mathématique, vous serez incapable de la faire. Parce que la partie du cerveau qui est nécessaire pour retenir des chiffres, eh bien, elle est parasitée par le stress. Puisque c'est là que le stress va se nicher, ce sont les mêmes endroits cérébraux qui fait qu'un enfant qui réussit... Est-ce qu'il y a des bons en maths ici, des très bons en mathématiques? Il y en a? Vous? Oui, plus ou moins. Donc, vous avez peur des araignées et vous êtes bon en maths. Donc, vous cumulez deux caractéristiques. Mais très bien, hein. Est-ce qu'il y en a qui sont mauvais en mathématiques? Des très mauvais en mathématiques? Bon. Alors, quand est-ce que vous avez décidé ça, que vous étiez mauvaise en mathématiques? École primaire, donc c'est souvent soit à l'école primaire, soit début secondaire. Voilà. On va analyser ce qui s'est passé dans votre cerveau à ce moment-là. Votre collègue de rangée derrière vous a le même cerveau que vous. Je vous assure que si on l'ouvre, on ne fera pas, hein, rassurez-vous, mais si on ouvre vos cerveaux, on a exactement le même mécanisme. Simplement, une personne décide que les mathématiques, ça procure du plaisir. Okay, et je vais le dire de manière un peu triviale, mais plus c'est dur, plus c'est bon, parce que ça crée des endorphines, hein, le fameux Eureka d'Archimède, c'est un orgasme. Hein. Sur le plan biochimique, vous le voyez. Hein. Vous avez effectivement des hormones de plaisir qui se diffusent dans l'organisme, et c'est ça qui fait que quand vous sortez d'un problème complexe, que vous trouvez une solution, vous avez une bouffée de plaisir énorme, et que, votre collègue le dira certainement mieux que moi, mais les mathématiques, c'est une source de plaisir pour les personnes qu'il aime. Et le problème du cerveau, c'est use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas va se perdre. Ça veut dire que vous n'allez pas myéliniser vos circuits cérébraux. Simplement, hein, si je vous dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, on ne parle qu'en alexandrin, eh bien, vous verrez que dans une semaine, vous allez le faire naturellement, comme on le faisait tout en Molière, parce que vous aurez myélinisé des circuits cérébraux. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence à la base, c'est une question d'utiliser des circuits cérébraux qui vont fonctionner de plus en plus vite, et qui vont procurer donc de plus en plus de plaisir. Si, chez vous, on bloque et la seule critère de réussite d'un enfant, et ça, on le voit, hein, si vous prenez une photo d'enfant et puis vous regardez la photo 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, vous mettez leurs résultats scolaires. Et puis, 20 ans plus tard, le fait qu'ils aient plus ou moins réussi leur vie, il n'y a aucune, c'est même pas une question de causalité, il n'y a aucune corrélation. Donc, les résultats scolaires, qui sont le thermomètre derrière lequel courent tous les parents, et la réussite ultérieure, vous n'avez aucun lien entre l'un et l'autre. Par contre, prenez la photo des enfants, repérez ceux qui aiment lire spontanément, donc qui ont du plaisir à apprendre. Là, vous avez une corrélation positive et forte entre les deux. C'est le seul critère qui permet d'évaluer. Donc, les enfants qui lisent spontanément Hunger Games, Harry Potter, peu importe ce qu'ils lisent, hein, sont effectivement, vous pouvez là être tout à fait soulagé, vous avez un enfant qui a préservé le plaisir d'apprendre, malgré les pièges de l'école. Parce que ce qui a enrayé votre plaisir d'apprendre et qui a stimulé cette décision, que vous n'avez pas prise toute seule, hein, vous la prenez avec des enseignants, avec des parents, qui décident que les maths, ce n'est pas pour vous. Vous aussi, vous décidez que les maths, ce n'est pas pour vous. Parce que les opérations logiques, par exemple, on a essayé de vous les faire rentrer avec un burin. Au lieu de laisser ça rentrer naturellement, avec du plaisir, simplement parce que les personnes qui s'occupaient de vous étaient parasitées par l'idée du temps qui passe. Le temps court, il est 6h. À 6h30, tu dois avoir fini ton devoir. Et on prend son burin pour taper sur la tête de son enfant pour faire rentrer les opérations logiques. Je parle des opérations logiques parce que c'est là-dessus qu'on évalue le mieux les dégâts commis par les devoirs. Parce que vous savez que l'opération logique, ça vient par inside. Hein. Inside, c'est un mécanisme qui fait que vous allez vous coucher, vous avez deux fils qui se touchent et puis vous avez compris. C'est vraiment une espèce d'illumination. On comprend, les enfants comptent longtemps sur leurs doigts. Et puis, hop, certains peuvent dire « Ok, ça va, j'ai compris ». Et il y en a d'autres qu'on empêche de travailler sur leurs doigts alors qu'ils ont vraiment besoin de compter sur eux-mêmes et que le système décimal, qui est un système tout à fait naturel et en même temps complètement abstrait, il suppose effectivement qu'après 10, vous n'avez plus de doigts. Vous pouvez utiliser ceux de votre pied, mais ce n'est pas simple. Et donc, on est obligé de chipoter avec tout ça pour créer la nécessité de l'abstraction. Piaget a fait des dégâts énormes, mais profonds. Parce qu'il a imposé un système de pensée auquel tout le monde a adhéré stupidement. Piaget n'était pas stupide, hein. Il n'avait pas dit que cette espèce de montée en escalier, c'était valable pour tout le monde et par tout le monde, hein. Mais en faisant de l'intelligence abstraite une marche de l'escalier à laquelle on devait nécessairement tous arriver à peu près au même âge, il a fait un dégât considérable. Parce que les enfants comptent beaucoup plus tôt qu'on ne l'imaginait, mais ils comptent autrement. Si vos enfants doivent mettre la table, et puis, papy et mamie viennent manger ce soir, ils vont faire plus d'eux, spontanément. Ah non, mamie est morte, ils retirent moins un. Et puis, ils ont compris l'addition, la soustraction. Et ils comprennent tous ces mécanismes-là qui font que l'enfant comprend l'opération logique. Et puis, après l'abstraction, ça se fera par connexion de liens logiques. On doit laisser le temps à faire son œuvre. Le temps court, avec l'utilisation du burin, le temps long aussi. Quand vous dites, tiens, ton petit voisin sait déjà faire ça, toi, tu ne sais pas le faire, angoisse du parent. Et c'est pour ça que les parents s'énervent, et notamment les parents enseignants s'énervent plus que les autres, parce qu'ils sont encore plus angoissés par l'idée que leur enfant pourrait être en déficit d'apprentissage. Un apprentissage, c'est préserver le plaisir d'apprendre de l'autre, c'est surtout lui permettre d'être détendu par rapport à l'objet à apprendre. Dès que vous êtes dans la tension, vous risquez les dégâts qui sont causés, alors à ce moment-là, chez un enfant qui transforme son plaisir d'apprendre en anxiété de ne pas pouvoir donner les bonnes réponses. Et là, vous avez toute l'école qui va se mettre en place de cette manière-là pour que, eh bien, on suscite de l'anxiété là où on devrait maintenir du plaisir. Le vrai mécanisme d'apprentissage suppose qu'on puisse vivre à ce moment-là des moments d'apprentissage. C'est pour ça que je prescris des Bob l'éponge, hein, des moments d'apprentissage partagés. Des enfants en phobie scolaire, dans un contexte d'hyperparentalité, dans lequel les parents me disent toujours la même chose. Hein. « Ah mais non, vous savez, c'est pas grave s'il rate, hein, il peut, s'il a 80%, et ils montrent eux-mêmes, et implicitement, ils ont un souhait de réussite absolue, qui n'est pas seulement la réussite simple, qui est la réussite en termes de « il faut que tu sois le meilleur ». Il faut que tu sois meilleur que les autres. On l'a expérimenté très récemment dans une recherche qu'on a faite en école maternelle. On a demandé aux enseignants d'école maternelle de dire aux parents que leur enfant se développait normalement. Banalement, normalement, tout va bien. Et on demande aux parents après si ça a été. Ils ne sont pas contents. Ils ne trouvent pas ça du tout satisfaisant. Par contre, on prend deux enfants au hasard et on dit à l'enseignante, vous le dites à ces parents-là, que leur enfant fait des dessins exceptionnels, que vous n'avez jamais vu ça. Alors là, on voit les parents, hein, notamment les parents qui se disent un surdon. Les parents cherchent non pas le don, mais le surdon. Hein. Brabant wallon, vous faites une conférence, vous mettez surdon derrière, vous avez plein de monde. Les parents de surdoués, il y en a partout. Alors, on commence déjà par leur expliquer, attention, ils ne sont pas surdoués, vos enfants. Ils sont surstimulés sur le plan scolaire, dans des domaines d'intelligence qui sont survalorisés par l'école. Là, vous devez parler très très vite parce qu'ils sont prêts à vous massacrer, simplement parce que, évidemment, ils sont un peu soulagés, hein, parce que vous savez, quand on annonce un surdon, ils disent « oui, je suis un peu embêté, j'ai un enfant surdoué ». En même temps, ils sont très contents parce qu'il est surdoué comme papa, et qu'on a très souvent énormément stimulé ces enfants sur le plan de deux types d'intelligence, l'intelligence verbale et l'intelligence logistico-mathématique. On a négligé, parce que l'intelligence, le cerveau, ne peut pas tout explorer, les autres formes d'intelligence qui sont essentielles, notamment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence pragmatique, l'intelligence naturelle, qui est une intelligence dont faisait preuve par exemple quelqu'un comme Darwin, hein, qui était, hein, les gens qui le connaissent, con comme un balai. Hein. Si vous parliez à Darwin, il parlait au niveau verbal, au niveau logico-mathématique, il n'était pas très bon. Par contre, vous le mettiez dans une forêt, il écoutait une rivière, il savait dans quel sens coulait la rivière. Il pouvait très vite comprendre les mécanismes naturels. Maintenant qu'on a à notre disposition l'imagerie cérébrale, on voit que c'est des zones cérébrales très différentes des autres. Comme l'intelligence émotionnelle, ce sont des zones cérébrales très différentes. Les enfants, et je ne me moque pas du tout hein, des enfants surdoués, parce qu'ils vivent parfois des drames, parce qu'on les a surstimulés sur le plan scolaire, ils se retrouvent à s'ennuyer à l'école. Bon, ça, ce serait un moindre mal s'il n'y avait pas aussi cette défaillance complète dans l'intelligence émotionnelle, parce que ça se greffe sur ces contextes d'hyperparentalité et que cette intelligence-là n'est pas explorée. Résultat, vous avez affaire à des enfants qui ont un niveau d'intelligence émotionnelle faible, donc un niveau d'empathie encore plus faible. Résultat, dans ces écoles, et on l'a vu quand on a mesuré le harcèlement, notamment si vous prenez le Brabant Wallon et Charleroi, eh bien, il y a plus de harcèlement dans le Brabant Wallon qu'à Charleroi. Simplement, il prend une autre forme. Mais vous avez des enfants qui ont beaucoup de mal à comprendre l'intelligence émotionnelle et les émotions des autres. Et c'est pour ça que dans les espaces de parole qu'on a mis en place, on a mis cette règle fondamentale, tu ne contredis pas l'émotion de l'autre. C'est indispensable qu'un enfant puisse, dans un espace de parole, puisse identifier clairement des endroits dans lesquels son émotion ne sera pas contredite. Je prends un petit exemple là pour vous expliquer comment ça fonctionne une émotion. C'est un enfant qui prend un espace de parole non sécurisé, donc il y en a énormément dans les écoles du Brabant Wallon, hein, puisque les pédagogies Freinet, de Crolli, etc., on multiplie les espaces de parole et C'est une école de Louvain-la-Neuve, une très chouette école, hein. C'est pas du tout l'école qui est en cause, mais pour ceux qui connaissent un peu Louvain-la-Neuve, c'est quand même la capitale de Boboland, hein, très clairement. Donc vous avez une culture très particulière et vous avez une école là dans laquelle, adossée à l'école, vous avez une cité sociale. Alors une cité sociale à Louvain-la-Neuve, c'est l'équivalent d'une cité résidentielle à Charleroi, hein, donc c'est pas que c'est la zone, mais vous avez quand même quelques petits Brian, hein, qu'on appelle, des enfants qu'on appelle des Brian, hein, qui sont là perdus au pays des Gontrans. Et vous en avez un, notamment, qui va utiliser un espace de parole pour dire qu'il est en colère, parce que Gontran se moque de lui. Ça prend pas 30 secondes pour que Gontran lui explique que c'est pas de la moquerie, que c'est de l'humour. Et d'ailleurs, Brian, on est quand même bien gentil de jouer avec toi, hein, parce que... Et là, la petite cour de Gontran s'y met, hein, parce que le harcèlement, vous savez que c'est quelque chose de plus compliqué que ce qu'on imagine. Hein, ce n'est pas un enfant et un autre enfant, c'est un enfant populaire, avec une petite cour autour de lui, et toute la classe qui agit comme spectateur, donc qui regarde et qui fige les rôles de chacun. Cet enfant, effectivement, à ce moment-là, commence à expliquer à Brian qu'on est bien gentil de rire avec lui, parce que... Et les autres vont s'y mettre aussi, parce qu'on va faire... la liste des défauts de Brian. Ça, c'est un espace de parole non sécurisé qui ne vous permet pas de dire votre émotion. Brian, il a très vite compris que tout le monde était égal, mais que certains étaient beaucoup plus égaux que d'autres, hein, et que donc les espaces de parole, il fallait s'en méfier. C'est devenu son procès. En quelques secondes, et même les enseignants ont applaudi Gontran en disant « Brian, il faut que tu fasses des efforts ». Dans les espaces de parole sécurisés qu'on met en place, chacun peut dire son émotion sans risquer d'être contredit. Si vous dites « je suis triste parce qu'on se moque de moi », personne n'a à vous dire que c'est de l'humour, parce que l'humour est bienveillant et créateur de liens, la moquerie, c'est offensant, et certainement pas donc créateur de liens, au contraire, ça met le lien au moins sous tension. Quand Philippe Geluck prend la défense de Charlie Hebdo, il peut le faire, mais il faut quand même rappeler qu'il est humoriste là où les autres sont caricaturistes. Son métier, il le fait dans la bienveillance et dans la création de liens. Les autres le font dans l'idée d'interroger un lien, sur la raison d'être sur le plan social, d'interroger un lien et de mettre ce lien sous tension, parce qu'il faut être offensant et offensif. Ça veut dire qu'on est dans des mécanismes très différents. Si on veut éviter que les écoles soient des espaces dans lesquels les rapports de domination, dominant-dominé, puissent à un moment donné créer ce qu'on appelle le harcèlement, sous couvert d'humour, avec effectivement la moquerie, c'est-à-dire des rapports dominant-dominé, qui sous couvert d'humour finissent par être acceptés, eh bien il suffit de laisser faire les espaces de parole, dans lesquels vous aurez 20% des enfants, d'ailleurs qui prendront 80% du temps de parole, hein, ce qu'on fait toujours quand on met en place un espace de parole, les dominants, ça veut dire ceux qui vont réutiliser ces espaces. Quand on sécurise l'espace de parole, on dit voilà, une émotion se dit, ne se contredit pas, et c'est l'adulte qui donne et qui reprend la parole. On a ce qu'on appelle les bâtons de parole, avec un bout vert où ils peuvent parler de leurs émotions, un bout jaune où ils trouvent des solutions. Parce que, et c'est ça, et je terminerai par là, c'est ça qui est vraiment très encourageant dans les projets qu'on met en place pour le moment pour prévenir le harcèlement, c'est qu'on a pu percevoir un mécanisme essentiel chez l'être humain. C'est que si l'empathie diminue effectivement inter-individuellement, hein, si vous dites à un enfant « arrête de te moquer de celui-là parce qu'il est en surpoids, etc. », il vous sortira un truc du style « elle a qu'à maigrir » ou « il a qu'à maigrir ». Arrête de te moquer de lui parce qu'il a les cheveux roux, ben il a qu'à mettre un bonnet. S'il ne le dit pas lui-même, sa petite cour va le dire à sa place. Par contre, quand l'empathie diminue de manière inter-individuelle, elle augmente collectivement. Et vous avez une réponse émotionnelle, c'est pour ça que la troisième règle, c'est on demande au groupe qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est en détresse émotionnelle, celui qu'on n'a pas accusé, qu'on n'a pas, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un, le harceleur ne se rend même pas compte généralement de ce qu'il a fait, eh bien on a simplement à ce moment-là une réponse du groupe qui va trouver des solutions pour répondre à la détresse émotionnelle de celui qui émet des signaux de détresse. C'est ce qu'on fait, c'est à ça que l'émotion sert, à mettre en mouvement. Mettre en mouvement une attitude collective, quelque chose. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir, on parlait tout à l'heure de la gestion des émotions, ça ne veut rien dire gérer une émotion. Gérer l'effet des émotions, oui. C'est-à-dire cultiver le droit et le devoir que chacun a de repérer son émotion, d'y mettre un nom. Et c'est pour ça on doit simplifier. Ça veut dire parfois éliminer les états d'âme qui font écran face à l'émotion. Parce que l'état d'âme, c'est le truc de l'intellectuel pour ne pas parler de l'émotion. Vous êtes inquiet au lieu de dire que vous avez peur. Vous êtes agacé ou irrité, ce sont des mots qui ont du sens, hein. Mais il faut revenir à l'émotion, ça veut dire que tu es énervé. À partir de là, les mots servent à ça, et c'est pour ça qu'on a un patrimoine de mots terriblement important et qu'il faut les enseigner aux gens. C'est-à-dire des manières de parler des émotions pour en faire des états d'âme et donc les affiner. Si vous êtes irrité par votre conjoint, si vous êtes agacé par votre conjoint, ou si vous êtes énervé par votre conjoint, c'est pas tout à fait la même chose. L'irritation et l'agacement prennent votre corps en otage, l'agacement sur des conduites partielles, l'irritation sur des conduites globales. La façon dont on va permettre à la personne d'utiliser les mots vont effectivement à ce moment-là, et c'est pour ça que les apprentissages sur les émotions, par les émotions stimulent les apprentissages, les bloquent si elles ne sont pas autorisées, si elles ne sont pas permises et si elles ne sont pas explorées. Après, l'enseignement des mots qui parlent des émotions, c'est-à-dire ceux qui transforment l'émotion en état d'âme, vont vous permettre d'être intelligible par rapport à ce que vous vivez. Et je terminerai par là, hein. Il y a des gens ici qui ont parfois des crises de colère. Qu'est-ce qu'il y a des crises de colère? Alors, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. En même temps, ça soulage le corps. C'est vrai qu'effectivement, ça soulage le corps. Le problème, c'est que ça soulage le corps, mais ça empêtre l'esprit. Si vous avez une crise de colère, vous claquez la porte, vous sortez, vous allez, et que je mets deux chaises, une près d'un miroir, une éloignée du miroir, vous allez systématiquement vous asseoir sur la chaise éloignée du miroir. Vous ne savez pas vous voir en peinture. Si je viens avec un appareil photo d'ailleurs et un miroir, au moment où vous avez une crise de colère, vous allez chercher à m'échapper par tous les moyens. Parce que vos marqueurs somatiques vous ont amené à être hors de vous-même. C'est donc bon physiquement apparemment, ça semble soulager, ce n'est pas très, tout à fait vrai, mais ça semble soulager, mais c'est très mauvais psychologiquement d'avoir une crise de colère. Par contre, si vous êtes en mesure de dire je suis très en colère pour telle, telle, telle raison, personne ne nuance votre colère. Personne ne cherche à vous la rendre illégitime et on vous reconnaît le droit d'avoir cette colère-là, vous n'aurez pas besoin des marqueurs somatiques pour la manifester. Et donc, repérez toujours autour de vous, quand vous avez une crise de colère, qui vous a interdit d'avoir cette colère ou à chercher à la nuancer. S'il n'y a personne, cherchez en vous. Vous êtes votre pire ennemi. Ça veut dire que vous ne vous autorisez pas à avoir une colère. Si vous vous autorisez cette colère et que dans votre environnement tout le monde s'y adapte, vous n'aurez pas besoin des marqueurs somatiques. C'est en ça que l'apprentissage des émotions, ce qu'on appelait tout à l'heure la gestion des émotions, est essentiel. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci. Alors, un moment pour un échange de questions-réponses qui. Souhaite. On ne s'est pas passé le micro. Peut-être vous présenter. Oui.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Manouetter, je suis coordinatrice d'Alpha-Jambou. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai une formation de musicologue au départ, donc ça m'a rafraîchi un petit peu. Et le lien avec l'alphabétisation. Voilà ma question.
Alors, le lien avec l'alphabétisation, bien les mots déjà, parce que l'alphabétisation, c'est le même langage. Vous savez, les mathématiques sont une langue parmi d'autres, hein. On a actuellement en train de mettre en place un programme qui s'appelle Éduquons ensemble les peaux de lapin, et on travaille sur les mathématiques en tant que langue. C'est une langue. Et il faut donc, quand vous voulez maîtriser une langue, ne pas en avoir peur. Ça, c'est fondamental. Pouvoir à la fois l'analyser de manière analytique, c'est-à-dire avec ses différentes composantes, hein, les phonèmes, etc., mais aussi de manière synthétique, en jouant avec. Et donc, on travaille beaucoup sur l'idée qu'il faut jouer avec les mots. C'est pour ça, par exemple, que, y compris dans les mots mathématiques, partager, diviser, démultiplier, multiplier, donner à tout le monde, tout ça, ce sont des mots. Dès que vous affinez le langage, et c'est ce qu'on fait avec les émotions aussi, hein, quand on décline des états d'âme, vous devez comprendre analytiquement comment on forme le mot en jouant avec ce mot. Hein. Par exemple, quand on fait des comptines, et les enseignants parfois ne le savent plus, l'oublient, ils s'imaginent qu'une comptine, c'est fait pour cultiver la mémoire. Ce n'est pas vrai. La mémoire, alors à ce moment-là, prenez le bottin, ça marche mieux. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de sens. La comptine, ça sert à cultiver la prosodie de la langue, le plaisir de la langue, la manière de chanter la langue. C'est pour ça qu'on ne doit pas obliger un enfant à aller au bout de sa comptine, mais lui permettre de le faire de manière chantonnante. Si vous faites une comptine en italien, en turc et en français, vous n'aurez pas la même prosodie et vous allez apprendre d'ailleurs à ponctuer votre langage. Parce que sa seule corrélation, c'est la ponctuation du langage. Et donc, c'est le plaisir de jouer avec la langue, les jeux de mots. On le voit très, très facilement, un enfant capable de faire un rhinopotame en associant un rhinocéros et un hippopotame, c'est un enfant qui est à l'aise avec la langue. Les enfants de milieu moins favorisés ont peur de ça. Un rhinopotame, ça n'existe pas, je ne peux pas. Et donc, ils ne le font pas. Le jeu avec la langue permet effectivement de rendre les émotions plus diffuses. Toujours créer de l'émotion, mais par le jeu, qui est la meilleure interface qu'on puisse avoir, mais c'est vrai pour l'enfant, c'est vrai aussi pour l'adulte, hein, les jeux de mots, par exemple. Jouer avec les mots, tout ce qui, à un moment, va permettre à la personne de ne pas être tendue par rapport à l'apprentissage. Le trop-plein de sérieux, que ce soit pour les mathématiques, que ce soit pour le français, crée effectivement, à ce moment-là, des émotions paralysantes, alors qu'on doit fluidifier les émotions, c'est-à-dire permettre d'en vivre, hein. Parler de ce qu'on aime, quand on demande à un enfant de raconter Bob l'éponge, ou mieux, quand on demande à la maman de raconter Bob l'éponge devant l'enfant, et puis qu'on se rend compte qu'il commence à interagir auprès de Bob l'éponge, là on sait qu'on a gagné. Ils sont en train d'interagir sur un espace qui leur a, ce qu'on appelle un espace transitionnel, qui leur a donné un plaisir commun. C'est pour ça que l'apprentissage doit utiliser l'émotion, pas le gérer, hein. Moi, ce que vous m'avez dit tout à l'heure est très vrai. Je ne sais pas gérer ses émotions, c'est simplement l'utiliser d'une manière telle, parce que l'absence d'émotion, si je supprime vos émotions, il y a une maladie qu'on appelle l'anémotivité, qui est heureusement très très rare, c'est la pire. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion est quelqu'un qui a la vie d'un légume. Hein. Ça veut dire que l'émotion, c'est le moteur de tout. Elles sont collectives, et donc là on doit pouvoir à un moment donné repérer le moment où on est influencé par un collectif, pour le meilleur, hein, quand le petit garçon stimule des mécanismes d'empathie généralisée, parce que sur une photo, on voit un enfant mort et que ça sollicite une empathie généralisée, mais pour le pire aussi, quand on se met à voter extrême droite massivement, simplement parce qu'on nous a amené quelques images qui font peur. On est dans ces mécanismes-là. Vous savez, un être humain, c'est essentiellement un être d'image et d'histoire. C'est ce qui fait la différence entre nous et le grand singe, sa seule différence. On a des images, on met des mots sur ces images, on raconte des histoires. Et tout ça, c'est cultivé autour des émotions. Et l'apprentissage, l'alphabétisation, c'est l'art de raconter des histoires en mettant des mots dessus qu'on est en mesure d'écrire. Et donc, on améliore ce que Sen appelle sa capacité. C'est pour ça que quand on m'appelle dans des endroits comme lire-écrire, je vais systématiquement, parce que pour moi, ce sont des endroits essentiels. Si vous voulez améliorer ce qu'on appelle la capacité, c'est-à-dire l'opportunité qui est laissée à chacun de faire des choix dans sa vie, eh bien, il faut nécessairement, hein, c'est ce que Paulo Freire prétendait aussi, hein, il faut nécessairement lui permettre de lire, d'écrire, c'est-à-dire d'installer ses émotions dans des mots, essentiellement.
Une autre question ? Oui ? Présente-toi peut-être. Ouais.
Je me mets juste par là. Dans certains groupes, il y a des adultes qui attendent que quand ils sont en formation, il n'y ait pas forcément le plaisir de jeu et justement que ce soit contraignant, que les enfants ont l'impression d'apprendre. Est-ce qu'il y a, alors, comment est-ce qu'on peut amener cette notion d'émotion sans que la personne se dise, et si ce n'est pas ma place, je m'en vais, je vais.
Voilà. Alors, alors, vous parlez du mot contraignant. Un apprentissage peut être astreignant sans être contraignant. Un apprentissage, c'est un ensemble de difficultés. On le sait, c'est pas facile un apprentissage. Donc ça, il faut pouvoir permettre à une personne, adulte ou enfant, de considérer que l'apprentissage, ça crée des peurs. Parce que la peur d'apprendre est un des premiers creusets, effectivement, des difficultés qu'aurait une personne. Un apprentissage, ça vous expose au vide. Au fait, par exemple, vous savez, il y a énormément ça chez les autodidactes, par exemple, hein. Les personnes qui n'ont pas validé leur apprentissage par un diplôme, ils vont prendre plein d'espace pour essayer de valider ces apprentissages. Ils auront peur, à un moment donné, que ce ne soit pas valide, ce qu'ils ont appris. Et donc, ils ont parfois plus peur que d'autres de prendre la parole, simplement parce qu'ils n'ont pas le diplôme qui permet d'affirmer une compétence particulière. Et donc, la peur, toutes ces émotions vont parasiter le plaisir d'apprendre très souvent. Il faut donc permettre de le dire. Permettre de dire aussi, et c'est pour ça que je parle d'un apprentissage qui peut être astreignant, mais qui ne doit pas être contraignant, permettre de dire aussi que l'apprentissage n'est pas qu'une source de satisfaction. Loin de là, hein, il faut effectivement, il y a une image qui le montre très bien, hein, il y a quelque chose de naturel qui permet à l'être humain d'apprendre. C'est le plaisir. Celui-là existe. Quand Socrate joue de la flûte la veille, ou apprend à jouer de la flûte plus exactement, la veille de mourir, et il sait qu'il va mourir, et qu'on lui demande, mais Socrate, pourquoi est-ce que tu joues de la flûte? Tu vas mourir demain. Ça ne sert à rien d'apprendre, tu ne sauras jamais vraiment jouer. Et il vous dit, c'est juste pour le plaisir d'apprendre. Tout est là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une pulsion exploratoire qu'on doit pouvoir utiliser. Et donc, les pédagogies de l'intérêt, par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous savez, moi, cet après-midi, je ne donne pas cours, je vois des personnes en situation de démobilisation sociale complète. Qui doivent faire des projets, parce que le but du jeu, c'est de les remobiliser. Je vais effectivement d'abord leur demander ce qui les intéresse, à quoi ils jouent. Ils me parlent de leurs jeux vidéo, ce sont des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Ils me parlent de leurs jeux vidéo et on essaie simplement de décrypter l'intelligence qu'ils ont mis en mouvement derrière ces jeux vidéo. Ils se sentent perçus comme des gens intelligents. Et ils me le disent systématiquement. Au Forum, on n'a pas le même CV. Au Forum, on me dit, donne-moi tes diplômes, montre-moi ce que tu as appris, jusqu'à quelle année tu as été. Et donc, on doit renverser le mécanisme en disant, dis-moi quel type d'intelligence tu as développé. S'ils ont joué sur Call of Duty, ça veut dire qu'ils sont très clairement en train de mettre en place une intelligence stratégique qui permet, par exemple, de mettre sur le côté les bénéfices primaires en vue d'un bénéfice secondaire. Alors, quand il se dit, ah, ok, là, je suis validé dans une compétence. C'est ça qui fait que parfois, pour que la personne ose apprendre, il faut qu'elle comprenne qu'il y aura des désagréments et que le vrai optimiste, ce n'est pas celui qui dit, on va y arriver. C'est celui qui dit, l'optimisme intelligent, c'est, on va y arriver, mais ça ne va pas être facile. Et donc, on doit admettre, au début, et même pendant tout le long du processus, les difficultés. Sinon, vous arrivez à ce mécanisme tordu en pédagogie, qui est aussi lié au contexte d'hyperparentalité, c'est que dès que vous avez une difficulté d'apprentissage, avec votre symptôme, on fait un statut. C'est-à-dire que vous devenez un 10 quelque chose. 10 orthographique, 10 calculique, dyspraxique. Moi, j'ai appris, il y a 3 semaines, que j'étais dyspraxique. J'étais dans un colloque en Italie, et ils parlaient de la dyspraxie. Ils ont donné les symptômes de la dyspraxie. Moi, j'ai toujours cru que j'étais maladroit. Eh bien, j'ai appris qu'il y avait un nom qui expliquait que quand on renverse du lait chaque fois qu'on se met une escouique et que la poudre tombe un peu à côté de la tasse, ça m'arrive très souvent, eh bien, on est un dyspraxique. J'ai eu récemment dans mon bureau un enfant prétendu dyspraxique parce que je passe mon temps à détricoter des diagnostics, ce qu'on appelle détester un enfant, c'est-à-dire enlever tout ce que les tests ont fait de lui. C'est quand un parent, par exemple, entend un pédiatre, et cet enfant-là avait entendu d'un pédiatre. Alors, les pédiatres sont très bons pour diagnostiquer les maladies, mais moi, je ne diagnostique pas les gastro-entérites. Hein. Alors, qui nous laisse tranquilles dans la pédagogie ? Parce que c'est dangereux ce qu'ils font. Quand ils disent, cet enfant est 10 quelque chose. Puis évidemment, le parent s'en va voir un logopède qui dit, bon, on va faire quelque chose avec ça. Et cet enfant avait des années de logopédie derrière eux, comme plein de ses enfants. Et on fait un statut, une maladie, avec leur apprentissage. C'est parfois ce qui bloque l'apprentissage, quand quelqu'un s'est déclaré inapte à apprendre. Il faut tout détricoter pour lui dire, mais non, on va apprendre tranquillement, donc c'est détendre l'atmosphère. Un enfant vient me voir parce qu'il est soi-disant dyspraxique. Puis à la fin de l'entretien, on prend le rendez-vous pour la semaine suivante. Elle dit, je ne saurais pas venir parce qu'il joue au football. Mais je dis, bien, il joue au football. Et il fait quoi ? Il joue où ? Il joue à Moucron. Club assez performant quand même, et il joue en équipe représentative au niveau de sa classe d'âge. Et il est gardien de but. Alors si Moucron se met à mettre des dyspraxiques à son but, moi j'ai vraiment peur pour l'avenir de cette équipe, il doit vraiment changer.
Voilà. Je propose, je sais qu'il y avait encore quelques questions, mais comme je suis gardienne du temps aujourd'hui, ben voilà, ce matin.
Alors,
en tout cas.
Juste pour les questions qui seraient en suspens, ouais. Parce que je le fais toujours de cette manière-là, parce que il y a des gens qui n'osent pas poser des questions, qui n'ont pas le temps. Je donne toujours mon adresse mail pour les personnes qui voudraient poser une question en retard. Donc c'est bruno.humbeck, donc H-U-M-B-E-E-C-K, @live.be. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Voilà, merci à tout le monde.
Merci.